Pendant ces minutes où Gilberte, partie se préparer, n'était pas dans le salon avec nous, monsieur et madame Swann se plaisaient à me découvrir les rares vertus de leur fille. Et tout ce que j'observais semblait prouver qu'ils disaient vrai. Je remarquais que, comme sa mère me l'avait raconté, elle avait non seulement pour ses amis, mais pour les domestiques, pour les pauvres, des attentions délicates, longuement méditées, un désir de faire plaisir, une peur de mécontenter, se traduisant par de petites choses qui souvent lui donnaient beaucoup de mal. Elle avait fait un ouvrage pour notre marchande des Champs-Élysées et sortie par la neige pour le lui remettre elle-même et sans un jour de retard. « Vous n'avez pas idée de ce qu'est son cœur, car elle le cache, » disait son père. Si jeune, elle avait l'air bien plus raisonnable que ses parents. Quand Swann parlait des grandes relations de sa femme, Gilberte détournait la tête et se taisait, mais sans un air de blâme, car son père ne lui paraissait pas pouvoir être l'objet de la plus légère critique. Un jour que je lui avais parlé de Mademoiselle Vinteuil, elle me dit « Jamais je ne la connaîtrai. » Pour une raison, c'est qu'elle n'était pas gentille pour son père, à ce qu'on dit. Elle lui faisait de la peine. Vous ne pouvez pas plus comprendre cela que moi, n'est-ce pas? Vous qui ne pourriez sans doute pas plus survivre à votre papa que moi au mien, ce qui est du reste tout naturel. Comment oublier jamais quelqu'un qu'on aime depuis toujours? Et une fois qu'elle était plus particulièrement câline avec Swann, comme je le lui fis remarquer quand il fut loin, « Oui, pauvre papa, c'est ces jours-ci l'anniversaire de la mort de son père. Vous pouvez comprendre ce qu'il doit éprouver. Vous comprenez cela, vous. Nous sentons de même sur ces choses-là. Alors je tâche d'être moins méchante que d'habitude. » »« Mais il ne vous trouve pas méchante, il vous trouve parfaite. Pauvre papa, c'est parce qu'il est trop bon. » Ses parents ne me firent pas seulement l'éloge des vertus de Gilberte, cette même Gilberte qui, même avant que je l'eusse jamais vue, m'apparaissait devant une église, dans un paysage de l'Île-de-France, et qui ensuite, m'évoquant non plus mes rêves, mais mes souvenirs, était toujours devant la haie d'épines roses, dans le raidillon que je prenais pour aller du côté de mes églises. Comme j'avais demandé à madame Swann, en m'efforçant de prendre le ton indifférent d'un ami de la famille, curieux des préférences d'une enfant, quels étaient parmi les camarades de Gilberte ceux qu'elle aimait le mieux, madame Swann me répondit « Mais vous devez être plus avancé que moi dans ces confidences, vous qui êtes le grand favori, le grand crack, comme disent les Anglais. » Sans doute dans ces coïncidences tellement parfaites, quand la réalité se replie et s'applique sur ce que nous avons si longtemps rêvé, elle nous le cache entièrement, se confond avec lui, comme deux figures égales et superposées qui n'en font plus qu'une. Alors qu'au contraire, pour donner à notre joie toute sa signification, nous voudrions garder à tous ces points de notre désir, dans le moment même où nous y touchons, et pour être plus certain que ce soit bien eux, le prestige d'être intangible. Et la pensée ne peut même pas reconstituer l'état ancien pour le confronter au nouveau, car elle n'a plus le champ libre. La connaissance que nous avons faite, le souvenir des premières minutes inespérées, les propos que nous avons entendus sont là qui obstruent l'entrée de notre conscience et commandent beaucoup plus les issues de notre mémoire que celles de notre imagination. Ils rétroagissent davantage sur notre passé que nous ne sommes plus maîtres de voir sans tenir compte d'eux que sur la forme restée libre de notre avenir. J'avais pu croire pendant des années qu'aller chez madame Swann était une vague chimère que je n'atteindrais jamais. Après avoir passé un quart d'heure chez elle, c'est le temps où je ne la connaissais pas qui était devenu chimérique et vague, comme un possible que la réalisation d'un autre possible a anéanti. Comment aurais-je encore pu rêver de la salle à manger comme d'un lieu inconcevable, quand je ne pouvais pas faire un mouvement dans mon esprit sans y rencontrer les rayons infrangibles qu'émettait à l'infini derrière lui, jusque dans mon passé le plus ancien, le homard à l'américaine que je venais de manger? Et Swann avait dû voir, pour ce qui le concernait lui-même, se produire quelque chose d'analogue, car cet appartement où il me recevait pouvait être considéré comme le lieu où était venu se confondre et coïncider non pas seulement l'appartement idéal que mon imagination avait engendré, mais un autre encore, celui que l'amour jaloux de Swann, aussi inventif que mes rêves, lui avait si souvent décrit, cet appartement commun à Odette et à lui, qui lui était apparu si inaccessible, tel soir où Odette l'avait ramené avec Forcheville prendre de l'orangeade chez elle. Et ce qui était venu s'absorber pour lui dans le plan de la salle à manger où nous déjeunions, c'était ce paradis inespéré où jadis il ne pouvait sans trouble imaginer qu'il aurait dit à leur maître d'hôtel ces mêmes mots « Madame est-elle prête ?» que je lui entendais prononcer maintenant avec une légère impatience mêlée de quelque satisfaction d'amour-propre. Pas plus que ne le pouvait sans doute Swann, je n'arrivais à connaître mon bonheur, et quand Gilberte elle-même s'écriait « Qu'est-ce qui vous aurait dit que la petite fille que vous regardiez sans lui parler jouer au bar serait votre grande amie chez qui vous iriez tous les jours où cela vous plairait ?» Elle parlait d'un changement que j'étais bien obligée de constater du dehors, mais que je ne possédais pas intérieurement, car il se composait de deux états que je ne pouvais, sans qu'ils cessassent d'être distincts l'un de l'autre, réussir à penser à la fois. Et pourtant, cet appartement, parce qu'il avait été si passionnément désiré par la volonté de Swann, devait conserver pour lui quelque douceur, si j'en jugeais par moi pour qu'il n'avait pas perdu tout mystère. Ce charme singulier dans lequel j'avais pendant si longtemps supposé que baignait la vie des Swann, je ne l'avais pas entièrement chassé de leur maison en y pénétrant. Je l'avais fait reculer, dompté qu'il était par cet étranger, ce paria que j'avais été, et à qui Mademoiselle Swann avançait maintenant gracieusement pour qu'il y prît place, un fauteuil délicieux, hostile et scandalisé. Mais tout autour de moi, ce charme, dans mon souvenir, je le perçois encore. Est-ce parce que ces jours où Monsieur et Madame Swann m'invitaient à déjeuner, pour sortir ensuite avec eux et Gilberte, j'imprimais avec mon regard, pendant que j'attendais seule, sur le tapis, sur les bergères, sur les consoles, sur les paravents, sur les tableaux, l'idée gravée en moi que Madame Swann, ou son mari, ou Gilberte allait entrer. Est-ce parce que ces choses ont vécu depuis dans ma mémoire à côté des Swann et ont fini par prendre quelque chose d'eux? Est-ce que, sachant qu'ils passaient leur existence au milieu d'elles, je faisais de toutes comme les emblèmes de leur vie particulière, de leurs habitudes dont j'avais été trop longtemps exclue pour qu'elles ne continuassent pas à me sembler étrangères, même quand on me fit la faveur de m'y mêler? Toujours est-il que chaque fois que je pense à ce salon que Swann, sans que cette critique impliquât de sa part l'intention de contrarier en rien les goûts de sa femme, trouvait si disparate, parce que tout conçu qu'il était encore dans le goût moitié serre, moitié atelier qui était celui de l'appartement où il avait connu Odette, elle avait pourtant commencé à remplacer dans ce fouillis nombre des objets chinois qu'elle trouvait maintenant un peu toc, bien à côté, par une foule de petits meubles tendus de vieilles soies Louis XVI, sans compter les chefs-d'œuvre rapportés par Swann de l'hôtel du Quai d'Orléans. Il a au contraire, dans mon souvenir, ce salon composite, une cohésion, une unité, un charme individuel que n'ont jamais même les ensembles les plus intacts que le passé nous ait légués, ni les plus vivants où se marque l'empreinte d'une personne. Car nous seuls pouvons, par la croyance qu'elles ont une existence à elles, donner à certaines choses que nous voyons une âme qu'elles gardent ensuite et qu'elles développent en nous. Toutes les idées que je m'étais faites des heures, différentes de celles qui existent pour les autres hommes, que passaient les Swann dans cet appartement, qui était pour le temps quotidien de leur vie ce que le corps est pour l'âme, et qui devait en exprimer la singularité, toutes ces idées étaient réparties, amalgamées, partout également troublantes et indéfinissables, dans la place des meubles, dans l'épaisseur des tapis, dans l'orientation des fenêtres, dans le service des domestiques. Quand, après le déjeuner, nous allions au soleil prendre le café dans la grande baie du salon, tandis que Madame Swann me demandait combien je voulais de morceaux de sucre dans mon café, ce n'était pas seulement le tabouret de soie qu'elle poussait vers moi qui dégageait, avec le charme douloureux que j'avais perçu autrefois, sous l'épine rose, puis à côté du massif de laurier, dans le nom de Gilberte, l'hostilité que m'avaient témoigné ses parents, et que ce petit meuble semblait avoir si bien su et partagé, que je ne me sentais pas digne, et que je me trouvais un peu lâche d'imposer mes pieds à son capitonnage sans défense. Une âme personnelle le reliait secrètement à la lumière de 2 heures de l'après-midi, différente de ce qu'elle était partout ailleurs dans le golfe où elle faisait jouer à nos pieds ses flots d'or, parmi lesquels les canapés bleuâtres et les vaporeuses tapisseries émergeaient comme des îles enchantées. Et il n'était pas jusqu'au tableau de Rubens, accroché au-dessus de la cheminée, qui ne posséda lui aussi le même genre et presque la même puissance de charme que les bottines à lacets de M. Swann et ce manteau à pèlerine dont j'avais tant désiré porter le pareil, et que maintenant Odette demandait à son mari de remplacer par un autre, pour être plus élégant, quand je leur faisais l'honneur de sortir avec eux. Elle allait s'habiller elle aussi, bien que j'eusse protesté qu'aucune robe de ville ne vaudrait, à beaucoup près, la merveilleuse robe de chambre de crêpe de Chine, ou de soie, vieux rose, cerise, rose tiepolo, blanche, mauve, verte, rouge, jaune unie ou à dessin, dans laquelle Madame Swann avait déjeuné et qu'elle allait ôter. Quand je disais qu'elle aurait dû sortir ainsi, elle riait, par moquerie de mon ignorance ou plaisir de mon compliment. Elle s'excusait de posséder tant de peignoirs parce qu'elle prétendait qu'il n'y avait que là-dedans qu'elle se sentait bien, et elle nous quittait pour aller mettre une de ces toilettes souveraines qui s'imposaient à tous, et entre lesquelles pourtant j'étais parfois appelée à choisir celle que je préférais qu'elle revêtît. Au jardin d'acclimatation, que j'étais fière, quand nous étions descendus de voiture, de m'avancer à côté de Madame Swann, tandis que dans sa démarche nonchalante elle laissait flotter son manteau, je jetais sur elle des regards d'admiration auxquels elle répondait coquettement par un long sourire. Maintenant, si nous rencontrions l'un ou l'autre des camarades, filles ou garçons de Gilberte, qui nous saluaient de loin, j'étais à mon tour regardée par eux comme un de ces êtres que j'avais tant enviés, un de ses amis de Gilberte qui connaissait sa famille et était mêlé à l'autre partie de sa vie, celle qui ne se passait pas aux Champs-Élysées. Souvent, dans les allées du bois ou du jardin d'acclimatation, nous croisions, nous étions salués par telle ou telle grande dame amie de Swann, qu'il lui arrivait de ne pas voir et que lui signalait sa femme. « Charles, vous ne voyez pas Madame de Montmorency ?» Et Swann, avec le sourire amical dû à une longue familiarité, se découvrait pourtant largement avec une élégance qui n'était qu'à lui. Quelquefois, la dame s'arrêtait, heureuse de faire à Madame Swann une politesse qui ne tirait pas à conséquence et de laquelle on savait qu'elle ne chercherait pas à profiter ensuite, tant Swann l'avait habituée à rester sur la réserve. Elle n'en avait pas moins pris toutes les manières du monde. Et si élégante et noble de port que fut la dame, Madame Swann l'égalait toujours en cela. Arrêtée un moment auprès de l'amie que son mari venait de rencontrer, elle nous présentait avec tant d'aisance, Gilberte et moi, gardait tant de liberté et de calme dans son amabilité, qu'il eût été difficile de dire, de la femme de Swann ou de l'aristocratique passante, laquelle des deux était la grande dame. Le jour où nous étions allés voir les Cingalais, comme nous revenions, nous aperçûmes venant dans notre direction et suivis de 2 autres qui semblaient l'escorter, une dame âgée mais encore belle, enveloppée dans un manteau sombre et coiffée d'une petite capote attachée sous le cou par 2 brides. « Ah, voilà quelqu'un qui va vous intéresser !» me dit Swann. La vieille dame, maintenant à 3 pas, nous souriait avec une douceur caressante. Swann se découvrit. Madame Swann s'abaissa en une révérence et voulut baiser la main de la dame, pareille à un portrait de Winterhalter, qui la releva et l'embrassa. « Voyons, voulez-vous mettre votre chapeau, vous ? » dit-elle à Swann d'une grosse voix un peu maussade en amie familière. Je vais vous présenter à son Altesse impériale, me dit Madame Swann. Swann m'attira un moment à l'écart pendant que Madame Swann causait du beau temps et des animaux nouvellement arrivés au jardin d'acclimatation avec l'Altesse. C'est la princesse Mathilde, me dit-il. Vous savez, l'amie de Flaubert, de Sainte-Beuve, de Dumas. Songez, c'est la nièce de Napoléon Ier. Elle a été demandée en mariage par Napoléon III et par l'empereur de Russie. Ce n'est pas intéressant. Parlez-lui un peu. Mais je voudrais qu'elle ne nous fît pas rester une heure sur nos jambes. J'ai rencontré Taine qui m'a dit que la princesse était brouillée avec lui, dit Swann. Il s'est conduit comme un cochon, dit-elle d'une voix rude et en prononçant le mot comme si ça avait été le nom de l'évêque contemporain de Jeanne d'Arc. Après l'article qu'il a écrit sur l'empereur, je lui ai laissé une carte avec PPC. J'éprouvais la surprise qu'on a en ouvrant la correspondance de la duchesse d'Orléans, née princesse palatine. Et en effet, la princesse Mathilde, animée de sentiments si français, les éprouvait avec une honnête rudesse, comme en avait l'Allemagne d'autrefois, et qu'elle avait hérité sans doute de sa mère wurtembergeoise. Sa franchise un peu fruste et presque masculine, elle l'adoucissait dès qu'elle souriait d'une langueur italienne. Et le tout était enveloppé dans une toilette tellement Second Empire que, bien que la princesse la portât seulement sans doute par attachement au mode qu'elle avait aimé, elle semblait avoir eu l'intention de ne pas commettre une faute de couleur historique et de répondre à l'attente de ceux qui attendaient d'elle l'évocation d'une autre époque. Je soufflai à Swann de lui demander si elle avait connu Musset. « Très peu, monsieur, » répondit-elle d'un air qui faisait semblant d'être fâché. Et en effet, c'était par plaisanterie qu'elle disait monsieur à Swann, étant fort intime avec lui. « Je l'ai eu une fois à dîner. Je l'avais invité pour 7 heures. À 7h30, comme il n'était pas là, nous nous mîmes à table. Il arrive à 8h, me salue, s'assied, ne desserre pas les dents, part après le dîner sans que j'aie entendu le son de sa voix. Il était ivre mort. Cela ne m'a pas beaucoup encouragé à recommencer. Nous étions un peu à l'écart, Swann et moi. « J'espère que cette petite séance ne va pas se prolonger, » me dit-il. « J'ai mal à la plante des pieds. Aussi, je ne sais pas pourquoi ma femme alimente la conversation. Après cela, c'est elle qui se plaindra d'être fatiguée, et moi, je ne peux plus supporter ces stations debout. » Madame Swann, en effet, qui tenait le renseignement de Madame Bontemps, était en train de dire à la princesse que le gouvernement, comprenant enfin sa goujaterie, avait décidé de lui envoyer une invitation pour assister dans les tribunes à la visite que le tsar Nicolas devait faire le surlendemain aux Invalides. Mais la princesse qui, malgré les apparences, malgré le genre de son entourage composé surtout d'artistes et d'hommes de lettres, était restée au fond et chaque fois qu'elle avait à agir, nièce de Napoléon. « Oui, madame, je l'ai reçue ce matin et je l'ai renvoyée au ministre qui doit la voir à l'heure qu'il est. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'invitation pour aller aux Invalides. Si le gouvernement désire que j'y aille, ce ne sera pas dans une tribune, mais dans notre caveau où est le tombeau de l'empereur. Je n'ai pas besoin de carte pour cela, j'ai mes clés. J'entre comme je veux. Le gouvernement n'a qu'à me faire savoir s'il désire que je vienne ou non. Mais si j'y vais, ce sera là ou pas du tout. » À ce moment, nous fûmes salués, Madame Swann et moi, par un jeune homme qui lui dit bonjour sans s'arrêter et que je ne savais pas qu'elle connût, Bloch. Sur une question que je lui posais, Madame Swann me dit qu'il lui avait été présenté par Madame Bontemps, qu'il était attaché au cabinet du ministre, ce que j'ignorais. Du reste, elle ne devait pas l'avoir vu souvent, ou bien elle n'avait pas voulu citer le nom trouvé peut-être par elle peu chic de Bloch, car elle dit qu'il s'appelait Monsieur Morel. Je lui assurais qu'elle confondait, qu'il s'appelait Bloch. La princesse redressa une traîne qui se déroulait derrière elle et que Madame Swann regardait avec admiration. « C'est justement une fourrure que l'empereur de Russie m'avait envoyée, » dit la princesse. « Et comme j'ai été le voir tantôt, je l'ai mise pour lui montrer que cela avait pu s'arranger en manteau. » Il paraît que le prince Louis s'est engagé dans l'armée russe. « La princesse va être désolée de ne plus la voir près d'elle, » dit Madame Swann, qui ne voyait pas les signes d'impatience de son mari. Il avait bien besoin de cela. Comme je lui ai dit, ce n'est pas une raison parce que tu as eu un militaire dans ta famille, répondit la princesse, faisant avec cette brusque simplicité allusion à Napoléon Ier. Swann ne tenait plus en place. Madame, c'est moi qui vais faire l'altesse et vous demander la permission de prendre congé. Mais ma femme a été très souffrante et je ne veux pas qu'elle reste davantage immobile. Madame Swann refit la révérence et la princesse eut pour nous tous un divin sourire qu'elle sembla amener du passé, des grâces de sa jeunesse, des soirées de Compiègne et qui coula intacte et douce sur le visage tout à l'heure grognon. Puis elle s'éloigna, suivie de deux dames d'honneur qui n'avaient fait, à la façon d'interprète, de bonnes d'enfants ou de gardes malades, que ponctuer notre conversation de phrases insignifiantes et d'explications inutiles. Vous devriez aller écrire votre nom chez elle un jour de cette semaine, me dit Madame Swann. On ne corne pas de Bristol à toutes ces royautés, comme disent les Anglais. Mais elle vous invitera si vous vous faites inscrire. Parfois, dans ces derniers jours d'hiver, nous entrions avant d'aller nous promener dans quelqu'une des petites expositions qui s'ouvraient alors et où Swann, collectionneur de marques, était saluée avec une particulière déférence par les marchands de tableaux chez qui elles avaient lieu. Et par ces temps encore froids, mes anciens désirs de partir pour le Midi et Venise étaient réveillés par ces salles où un printemps déjà avancé et un soleil ardent mettaient des reflets violacés sur les alpilles roses et donnaient la transparence foncée de l'émeraude au grand canal. S'il faisait mauvais, nous allions au concert ou au théâtre et goûter ensuite dans un thé. Dès que Madame Swann voulait me dire quelque chose qu'elle désirait que les personnes des tables voisines ou même les garçons qui servaient ne comprissent pas, elle me le disait en anglais comme si c'eût été un langage connu de nous deux seulement. Or, tout le monde savait l'anglais. Moi seule ne l'avais pas encore appris et étais obligée de le dire à Madame Swann pour qu'elle cessât de faire sur les personnes qui buvaient le thé ou sur celles qui l'apportaient des réflexions que je devinais désobligeantes sans que j'en comprisse ni que l'individu visé en perdît un seul mot. Une fois à propos d'une matinée théâtrale, Gilberte me causa un étonnement profond. C'était justement le jour dont elle m'avait parlé d'avance et où tombait l'anniversaire de la mort de son grand-père. Nous devions, elle et moi, aller entendre avec son institutrice les fragments d'un opéra, et Gilberte s'était habillée dans l'intention de se rendre à cette exécution musicale, gardant l'air d'indifférence qu'elle avait l'habitude de montrer pour la chose que nous devions faire, disant que ce pouvait être n'importe quoi pourvu que cela me plût et fût agréable à mes parents. Avant le déjeuner, sa mère nous prit à part pour lui dire que cela ennuyait son père de nous voir aller au concert ce jour-là. Je trouvais que c'était trop naturel. Gilberte resta impassible, mais devint pâle d'une colère qu'elle ne put cacher, et ne dit plus un mot. Quand M. Swann revint, sa femme l'emmena à l'autre bout du salon et lui parla à l'oreille. Il appela Gilberte et la prit à part dans la pièce d'à côté. On entendit des éclats de voix. Je ne pouvais cependant pas croire que Gilberte, si soumise, si tendre, si sage, résista à la demande de son père un jour pareil et pour une cause si insignifiante. Enfin, Swann sortit en lui disant « Tu sais ce que je t'ai dit, maintenant fais ce que tu voudras. » La figure de Gilberte resta contractée pendant tout le déjeuner, après lequel nous allâmes dans sa chambre. Puis, tout d'un coup, sans une hésitation et comme si elle n'en avait eu à aucun moment, « 2 heures !» s'écria-t-elle. « Mais vous savez que le concert commence à 2h30 ?» Et elle dit à son institutrice de se dépêcher. « Mais, lui dis-je, est-ce que cela n'ennuie pas votre père ?»« Pas le moins du monde. » Cependant, il avait peur que cela ne semble bizarre à cause de cet anniversaire. « Qu'est-ce que cela peut me faire, ce que les autres pensent ? Je trouve ça grotesque de s'occuper des autres dans les choses de sentiment. On sent pour soi, pas pour le public. » Mademoiselle, qui a peu de distraction, se fait une fête d'aller à ce concert. Je ne vais pas l'en priver pour faire plaisir au public. » Et elle prit son chapeau. « Mais Gilberte, lui dis-je en lui prenant le bras, ce n'est pas pour faire plaisir au public, c'est pour faire plaisir à votre père. Vous n'allez pas me faire d'observation, j'espère, me cria-t-elle d'une voix dure en se dégageant vivement. Faveur plus précieuse encore que de m'emmener avec eux au jardin d'acclimatation ou au concert, les Swann ne m'excluaient même pas de leur amitié avec Bergotte, laquelle avait été à l'origine du charme que je leur avais trouvé quand, avant même de connaître Gilberte, je pensais que son intimité avec le divin vieillard eût fait d'elle pour moi la plus passionnante des amies, si le dédain que je devais lui inspirer ne m'eût pas interdit l'espoir qu'elle m'emmena jamais avec lui visiter les villes qu'il aimait. Or un jour, Madame Swann m'invita à un grand déjeuner. Je ne savais pas quels devaient être les convives. En arrivant, je fus, dans le vestibule, déconcerté par un incident qui m'intimida. Madame Swann manquait rarement d'adopter les usages qui passent pour élégants pendant une saison, et ne parvenant pas à se maintenir, sont bientôt abandonnées, comme beaucoup d'années auparavant elle avait eu son « handsome cab » ou faisait imprimer sur une invitation à déjeuner que c'était « to meet » un personnage plus ou moins important. Souvent ces usages n'avaient rien de mystérieux et n'exigeaient pas d'initiation. C'est ainsi que, mince innovation de ces années-là et importée d'Angleterre, Odette avait fait faire à son mari des cartes où le nom de Charles était précédé de « monsieur ». Après la première visite que je lui avais faite, Madame Swann avait corné chez moi un de ses cartons, comme elle disait. Jamais personne ne m'avait déposé de carte. Je ressentis tant de fierté, d'émotion, de reconnaissance que, réunissant tout ce que je possédais d'argent, je commandai une superbe corbeille de camélia et l'envoyai à Madame Swann. Je suppliai mon père d'aller mettre une carte chez elle, mais de s'en faire vite graver d'abord où son nom fut précédé de « monsieur ». Il n'obéit à aucune de mes deux prières. J'en fus désespérée pendant quelques jours et me demandai ensuite s'il n'avait pas eu raison. Mais l'usage du monsieur, s'il était inutile, était clair. Il n'en était pas ainsi d'un autre qui, le jour de ce déjeuner, me fut révélé, mais non pourvu de sa signification. Au moment où j'allais passer de l'antichambre dans le salon, le maître d'hôtel me remit une enveloppe mince et longue sur laquelle mon nom était écrit. Dans ma surprise, je le remerciai. Cependant, je regardai l'enveloppe. Je ne savais pas plus ce que j'en devais faire qu'un étranger d'un de ces petits instruments que l'on donne aux convives dans les dîners chinois. Je vis qu'elle était fermée. Je craignis d'être indiscret en l'ouvrant tout de suite et je la mis dans ma poche d'un air entendu. Madame Swann m'avait écrit quelques jours auparavant de venir déjeuner en petit comité. Il y avait pourtant 16 personnes, parmi lesquelles j'ignorais absolument que se trouva Bergotte. Madame Swann, qui venait de me nommer, comme elle disait, à plusieurs d'entre elles, tout à coup, à la suite de mon nom, de la même façon qu'elle venait de le dire, et comme si nous étions seulement deux invités du déjeuner qui devaient être chacun également contents de connaître l'autre, prononça le nom du doux chantre aux cheveux blancs. Ce nom de Bergotte me fit tressauter comme le bruit d'un revolver qu'on aurait déchargé sur moi, mais instinctivement, pour faire bonne contenance, je saluai. Devant moi, comme ces prestidigitateurs qu'on aperçoit intacts et en redingote dans la poussière d'un coup de feu d'où s'envole une colombe, mon salut m'était rendu par un homme jeune, rude, petit, râblé et myope, à nez rouge en forme de coquille de colimaçon et à barbiche noire. J'étais mortellement triste, car ce qui venait d'être réduit en poudre, ce n'était pas seulement le langoureux vieillard, dont il ne restait plus rien, c'était aussi la beauté d'une œuvre immense que j'avais pu loger dans l'organisme défaillant et sacré que j'avais, comme un temple, construit expressément pour elle, mais à laquelle aucune place n'était réservée dans le corps trapu, rempli de vaisseaux, d'os, de ganglions, du petit homme à nez camu et à barbiche noire qui était devant moi. Tout le Bergotte que j'avais lentement et délicatement élaboré moi-même, goutte à goutte, comme une stalactite, avec la transparente beauté de ses livres, ce Bergotte-là se trouvait d'un seul coup ne plus pouvoir être d'aucun usage, du moment qu'il fallait conserver le nez en colimaçon et utiliser la barbiche noire. Comme n'est plus bonne à rien la solution que nous avions trouvée pour un problème dont nous avions lu incomplètement la donnée et sans tenir compte que le total devait faire un certain chiffre. Le nez et la barbiche étaient des éléments aussi inéluctables et d'autant plus gênants que, me forçant à réédifier entièrement le personnage de Bergotte, il semblait encore impliquer, produire, sécréter incessamment un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi, ce qui n'était pas de jeu, car cet esprit-là n'avait rien à voir avec la sorte d'intelligence répandue dans ses livres, si bien connue de moi et que pénétrait une douce et divine sagesse. En partant d'eux, je ne serais jamais arrivée à ce nez en colimaçon, mais en partant de ce nez, qui n'avait pas l'air de s'en inquiéter, faisait cavalier seul et fantaisie, j'allais dans une toute autre direction que l'œuvre de Bergotte. J'aboutirais, semblait-il, à quelque mentalité d'ingénieur pressé, de la sorte de ceux qui, quand on les salue, croient comme il faut de dire « Merci et vous ?» avant qu'on leur ait demandé de leurs nouvelles et, si on leur déclare qu'on a été enchanté de faire leur connaissance, répondent par une abréviation qu'ils se figurent bien portée, intelligente et moderne, en ce qu'elle évite de perdre en de vaines formules un temps précieux. Également.